Famille, justice, enfance.
Bonjour et bienvenue dans Famille, justice, enfance, nouveau direct. Alors, j'ai une très très mauvaise nouvelle pour vous. Nous étions censés recevoir ce soir Ariane Bileran. Écoutez, Ariane a un impondérable. Elle nous a prévenu, elle s'est excusée gentiment. Elle ne pourra pas être là ce soir. C'est reporté pour une nouvelle occasion. Son co-auteur n'est pas disponible non plus, donc voilà, on va se débrouiller sans. Et puis si éventuellement, parce que j'ai contacté des personnes pour essayer de la remplacer, mais on m'a prévenu tard, c'est compliqué. Écoutez, je voulais pas vous laisser en plan, je voulais le faire quand même. On va essayer de se dépatouiller et de faire cette émission. Écoutez, à l'improviste, on fera des actualités. Ceux qui sont sur YouTube, profitez-en, posez des questions, puisque vous allez, je vais pouvoir vous, voilà, on va faire une interaction à l'antenne. En attendant, on va commencer par un peu de communication, par un peu de mettre à masse. Ça faisait longtemps. On va voir si ça marche.
Voilà, c'est Michel Amas, je suis avocat au barreau de Marseille. Je défends principalement les parents d'enfants placés dans ce scandale qui est celui de l'aide sociale à l'enfance en France. Il y a une grand-mère qui vit avec sa fille et sa petite-fille depuis 8 années. La fille est en souffrance, elle est dépressive, elle est alcoolique, il y a un vrai problème. En avril dernier, la mère meurt. Ne reste que la petite-fille et sa grand-mère. Les services sociaux ont décidé en juin de placer la petite-fille en famille d'accueil pour autonomiser l'enfant parce qu'elle est trop proche de la grand-mère. Depuis maintenant 7 mois, pas de son, pas d'image. Le poste est peut-être vacant. C'est ça que l'on vit à l'heure actuelle. On brise, on détruit. La vie de cette grand-mère, c'est du vent. Ce qui se passe est inacceptable. Et on se tait, on ne dit rien. J'ai l'impression de lutter contre des moulins à vent la plupart du temps. Ce que l'on vit est un scandale. L'aide sociale à l'enfance en France, c'est le mal.
Il exagère un petit peu quand même, hein, comme toujours. C'est un avocat, c'est un grand orateur, c'est Michel Amas. Mais en fait, il a quand même l'immense avantage de pointer du doigt un sujet qui est trop ignoré, qui est trop souvent ignoré, et il le fait très bien. Alors on va en faire une petite deuxième, voilà.
Jamas, je suis avocat au barreau de Marseille. Je travaille essentiellement dans les dossiers d'assistance éducative et de ce que l'aide sociale à l'enfance peut faire comme dégâts dans la vie des familles. J'ai parfois envie de vomir. À Paris, j'ai envie de vomir. À Paris, il y a une petite fille qui a un cancer dans un stade très avancé pour lequel le diagnostic est vital et largement engagé, pour lequel il y a un conflèvre du poumon, un cancer de la plèvre. C'est compliqué. Avec deux parents qui ne sont pas vraiment en dispute, qui sont en souffrance. Donc ils vont rentrer en conflit avec les médecins en disant « Mais tentons tel truc, tentons d'aller à la pitié salpêtrière, tentons autre chose. » Services sociaux de Paris ont eu la bonne idée de placer l'enfant en janvier. C'est-à-dire qu'il ne reste pas grand temps peut-être à cet enfant de vie. Elle va les passer sans ses parents. Mais surtout, ils ont exclu les grands-parents, les oncles, les tantes, tous les amis de cette petite fille de 7 ans. Ils ont exclu tout le monde. Cette petite fille passe peut-être les derniers mois de sa vie seule, avec les services sociaux, dans un endroit où elle est placée. J'ai envie de vomir. C'est-à-dire que ces gens ont été convoqués à une audience à la ramasse au dernier moment, donc ils n'ont pas pensé à mal. Ils n'ont pas pensé une seconde qu'on pouvait briser des vies comme ça, les piétiner, les mépriser. J'ai honte et je suis en colère. Je suis en colère et si vous ne l'êtes pas, je ne comprends pas. Il faut qu'on dénonce ce que font les services sociaux en France.
Bon. Alors, Michel Amas qui dénonce un problème qui effectivement existe, qui est présent, qui est même prégnant, pourrait-on dire. Il faut quand même pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais ça pose un certain nombre de problèmes. Donc là, on a un avocat qui s'exprime, qui dit effectivement que pour protéger nos enfants, ça fonctionne mal, qu'il y a des soucis au niveau... on en a écrit un livre, on en a beaucoup parlé ici. Par contre, il faut passer par des avocats. Et, bon, je suis désolé, j'improvise dans cette émission où l'invité m'a fait faux bond. Alors, nous, on est en train d'essayer de définir ce qu'on appelle des questions prioritaires de constitutionnalité, des QPC, notamment pour essayer d'obtenir la gratuité de ce qui est censé être le service public de justice en France. Et normalement, on devrait avoir une gratuité. Qui dit service public dit gratuit. On ne devrait pas être obligé d'y laisser tous nos biens qui ne sont pas déductibles des impôts sur le revenu, qui ne sont pas utiles des calculs CAF, et donc qui sont pris sur, sur nos économies et sur nos fonds propres. Je vais essayer d'expliquer ce que c'est. C'est une vidéo que j'ai mise sur YouTube, que vous retrouvez sur la chaîne YouTube, qui concerne notamment ces questions prioritaires de constitutionnalité et des choses qu'on est en train de mettre en place dans la justice. On vous sollicitera pour faire des demandes massives sur ce point-là.
Bonjour, je voulais vous parler aujourd'hui de deux procédures importantes que je suis en train d'effectuer pour notre cause, là, une question prioritaire de constitutionnalité et également une procédure au tribunal administratif. En fait, la procédure au TA, je suis en appel et j'ai lancé la QPC en même temps que la procédure au TA. Je suis au TA pour essayer de faire monter jusqu'en juridiction supranationale au niveau de l'Europe le fait d'établir que la justice est un service public, avec donc tout ce que cela sous-entend et tout ce que l'on peut en déduire. Vous voyez, c'est une question qui est extrêmement importante, parce que si l'Europe définit que le service public, que la justice est un service public, on rentre dans tout ce qui est gratuité, obligation de performance, et il y a vraiment un intérêt. Et dans cet appel, parce qu'il faut passer par toutes les juridictions pour aller jusqu'à l'Europe, j'ai lancé une QPC. Cette QPC, je voudrais vous en parler parce qu'elle est intéressante, je pense. Et comme aujourd'hui, j'ai reçu l'accord, elle va être effectivement lancée. Et j'ai le papier disant que la requête a correctement été déposée et que tout est bien parti. Maintenant, je peux en parler, je peux la dévoiler. Ça se passe au comité d'appel de Bordeaux. Je pense qu'on passera par le Conseil constitutionnel et, pour la QPC, et que celle-ci montera jusqu'à en juridiction d'appel. On a l'Europe. Alors, comme indiqué, cette démarche vise à solliciter en fin de recours un avis au niveau européen sur la question de savoir si les services de justice français en tant que service public administratif sont soumis aux exigences et réglementations correspondantes. Voilà ce que je vous disais, les services de justice sont effectivement un service public, et ça, vous allez voir, ça a son importance. Donc je lance une QPC en vertu d'article 61.1, qui est une question prioritaire de constitutionnalité. Le détail de la QPC, je vais vous la lire. Je conteste la légalité de l'obligation faite aux citoyens de recourir au service d'un avocat, prestataire privé et payant, pour initier les procédures judiciaires ou accéder aux informations les concernant, au tribunal administratif, mais également tous les types de procédures judiciaires ou administratives. C'est-à-dire qu'en fait, je constate que lorsqu'on veut accéder à des informations ou autres, on dit systématiquement passer par un avocat. L'avocat, il est payant, et donc ça coûte de l'argent qui est déduit sur nos fonds propres et nos économies, qui n'est pas pris en compte par l'impôt sur le revenu, les calculs CAF et ce genre de choses. Et donc, il y a un achat forcé. Alors, cette obligation constitue selon moi notre droit libéral. Je parle du droit d'accès à la justice, article 16, la déclaration des droits de l'homme, l'égalité entre les citoyens riches et pauvres. Quand je vois des gens qui en sont à 150 000 euros pour leurs enfants et autres, ça me laisse un peu songeur quand même, parce que c'est pareil, quoi. Ce sont des maisons qu'ils n'ont pas pu acheter uniquement pour demander le respect de leurs droits. Ça va pas. Ils ne peuvent pas forcément faire ça. Droit à un procès équitable et autres. Et j'explique que les honoraires des avocats représentent des sommes significatives, non déductibles des impôts sur le revenu, ni des calculs de la CAF, et sont prélevés sur les dépenses de loisirs, les économies ou les biens personnels des citoyens, conduisant parfois à un appauvrissement. L'observation, la pratique empirique entre les avocats, en plus, généralement, les avocats n'aiment pas beaucoup critiquer le système judiciaire, n'aiment pas beaucoup critiquer l'État ou leurs propres confrères, et très souvent, ils se placent en vendeurs de procédures, et afin de défendre les droits, de conflictualiser, ça allonge les certaines durées. Donc je dis que l'accès à la justice est compromis pour les citoyens n'ayant pas ou plus les moyens de se payer des services juridiques de qualité, mais ça fait également une surcharge des services judiciaires par une multiplication de procédures redondantes et autres. Et puis surtout, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire nous-mêmes, et lorsqu'on peut les faire nous-mêmes, je ne vois pas du tout pourquoi ce serait obligatoire d'utiliser un prestataire payant pour les faire. Dans ces circonstances, par exemple, pour faire un appel au tribunal administratif, on vous impose d'avoir un avocat. Moi, j'ai téléphoné, je leur dis, qu'est-ce qu'il fait l'avocat? Eh bien non, il va sur Télérecours Citoyen, il envoie un email avec le truc. Vous voulez, je donne 200 balles à un avocat pour qu'il vous envoie un email. Mais moi, je peux le faire, l'email. J'ai pas besoin d'envoyer, d'utiliser un avocat. Et pour les cours d'appel, c'est pareil. Il y a des choses qui sont pas... Il y a des gens qui vont être convoqués aussi au tribunal, en correctionnel ou autre. Il voudrait savoir ce qu'on le reproche en détail, avoir accès au dossier. Un âne, c'est uniquement l'avocat. Mais attendez, on n'est pas non plus les dégénérés, mais on sait lire, on peut comprendre des choses. On n'a pas à imposer un prestataire privé en libéral pour des services régaliens. Voilà, tout ça. Donc ça, c'est intéressant. Et je voulais vous en parler. Et peut-être qu'il faudrait qu'on soit plusieurs à le faire et qu'on fasse un mouvement collectif là-dessus. Voilà. Pour terminer, je vous renvoie encore sur l'ouvrage juridique, qu'en fait, en grande partie, un ouvrage juridique, hein, proposition pour la famille et la protection de l'enfance. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont lu. Essayez de mettre une bonne chronique sur, sur Amazon. Ne faites pas comme Gaël, là, le mauvais joueur qui, qui est un petit taquin. Je vais aussi lancer prochainement une série de dialogues avec ceux qui l'ont lu pour avoir leur avis et qu'on discute ensemble. Voilà. Mais aujourd'hui, c'était donc sur cette QPC. Je voulais vous en parler parce que, question prioritaire de constitutionnalité, il faut qu'on arrive à faire en sorte que l'on puisse se débrouiller par nous-mêmes, que ce service public, on n'a pas besoin d'un prestataire pour faire une déclaration d'impôt, on n'a pas besoin de payer quelqu'un pour aller s'occuper de nos affaires de sécurité sociale, ou d'être passé à la CAF, ou voilà, on en prend un vraiment si on n'y arrive pas et que c'est compliqué, mais c'est pas une obligation. D'accord, ben là c'est pareil quoi, pour avoir une conduite de gaz ou acheter une carte grise, on ne nous impose pas de payer par quelqu'un qui prend son bifton au passage quoi. Ben là c'est pareil et c'est le but de cette QPC. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis à très bientôt. Dans les émissions de radio, il y a une sacrée belle liste d'invités qui arrivent également. Salut, salut, bye bye.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Voilà, donc j'espère que vous avez compris de quoi il s'agit. On devrait avoir des nouvelles ces prochaines semaines, on est en train d'y travailler. Ça va être Maître Vanessa Frasson qui va travailler dessus, avec peut-être d'autres aides pour faire ça. C'est une donnée importante et visiblement, il y a du monde qui s'y intéresse. Autrement, j'ai parlé d'un autre thème. J'avais fait une vidéo sur cet été dessus. Dans le Périgord, on dépense 85 millions d'euros par an. Ils en ont fait un Grenelle et autres. On s'est rendu compte que y avait énormément d'enfants, qu'on avait explosé les records au niveau national par rapport à la protection de l'enfance. C'est aussi un petit scandale parce que c'est de l'argent qui ne va pas ailleurs. Moi, je pense notamment... il y a trop. Enfin voilà, écoutez, c'est encore un autre avis.
Code, en fait.
Attendez, je coupe les trucs qui n'ont rien à faire.
À moi, c'est campagne.
Petit rappel, même. Attendez, c'est YouTube qui lance automatiquement les vidéos sans demander avant. On va refaire depuis le début. Voilà.
Bonjour mes amis, depuis le Périgord, mon petit Périgord à moi, la campagne. Pour se tenir au courant des nouveautés. J'ai décidé d'aller faire des petites vidéos courtes de temps en temps lorsque je vois une actualité intéressante. Vivre en Périgord, hein, c'est le journal de juillet-août 2024. On ouvre à l'intérieur, là, où je vois un magnifique article sur états généraux enfance-famille. J'essaierai de vous le mettre là en commentaire ou je mettrai sur le site. Le département et ses partenaires écrivent la feuille de route 2024-2028. Ils ont donc fait des états généraux de la protection de l'enfance et de la famille. Et là, on apprend quand même que le département consacre 85 millions d'euros par an à l'aide à l'enfance. Ça veut dire les placements, les AEMO, la protection de l'enfance. Donc ils sont à plus 40% sur 4 ans. Hein, moi, je vous avais parlé un petit peu de la juge des enfants de Périgueux, qui d'ailleurs a été démise de ses fonctions il y a un an, et qui avait explosé les statistiques au niveau national. 85 millions d'euros. 85 millions d'euros pour... Alors à ce jour, 1755 enfants sont placés en Dordogne. Je ne sais pas d'où viennent leurs chiffres. Encore une fois, ils n'ont pas fait leur transition numérique et je pense qu'ils sont vraiment sous-estimés. En tout cas, on n'a pas le nombre d'enfants qui sont suivis par les AEMO. On n'a pas le nombre d'interventions. Il faut savoir que la Dordogne est un département qui est quand même très peu peuplé par rapport à d'autres départements français. 85 millions... Il y a 100 départements. Voilà, quand on dit qu'on est à 9 milliards d'euros par an, passons. Quand on dit que c'est améliorable, oui. Ah oui, tout à fait. Alors, question centrale, comment repenser l'accompagnement des familles et des enfants en prévention et en protection? Bah écoutez, c'est simple. Vu qu'il n'y a pas assez d'éducateurs et qu'une mesure d'AEMO, ça veut dire... moi, j'en ai une mesure d'AEMO. D'ailleurs, si vous voulez savoir mon histoire, vous allez sur Patreon. Mes choses privées, c'est là-bas que je les mets. Parce que, voilà, faut que ça reste entre nous, entre personnes privées. Puis en plus, quand je me lâche un petit peu, je ne peux pas tout dire sur YouTube non plus. Et donc, mesure d'AEMO, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la nana, en fait, moi, cette année, je l'ai vue deux fois. Je l'ai vue... à l'audience du juge des enfants, je l'ai vu une fois fin janvier, me demander comment j'allais, si j'étais pas mort, tout ça. Et je l'ai eu au téléphone lorsqu'elle m'a averti que ma fille changeait d'école parce que sa mère voulait plus payer l'école privée. C'est tout. Voilà. Donc le suivi éducatif de l'émission de l'État, du département, dans la protection de l'enfance. Qui se fait de manière comme ça, hein, sur un appel au 911, une instit qui n'est pas contente, une infirmière à l'hôpital qui dit le monsieur il s'est un peu énervé, tout ça. Derrière, en fait, il y a ça, il y a 85 millions d'euros. Et alors par contre, il y a des gens qui mangent. Là, c'est clair qu'il y a des gens qui mangent. Mais ça, on va en reparler. Et je pense que l'année prochaine, en émission de radio, on va monter un petit peu en intensité. Parce qu'on a gagné en renommée, là, puis en crédibilité. Donc on va essayer d'avoir en face de nous des gens un peu plus haut placés, qui ont un peu plus de voix, et on va discuter un peu plus avec eux. Voilà. Voilà. Voilà, ça c'est le Périgord, mais vous savez, hein, on est à un stade où ici, on a des fédérations de parents désenfantés, des gens qui se mettent ensemble parce qu'ils n'arrivent plus à avoir accès à leurs enfants. Il serait 85 millions d'euros, il y a des gens qui mangent, hein. Il y a des gens qui en profitent. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein.
Voilà, on parle d'argent public, c'est une cause intéressante et effectivement l'allusion c'est pour le groupe SAPA, c'est un placement abusif dont vous avez déjà pu entendre parler. On va notamment avoir bientôt sur les antennes les fondateurs du mouvement SAPA des Landes, hein, Karine et Christophe. Et puis dans les invités, ah oui, il faut que je vous annonce aussi Maître Domergue, qui est un ancien magistrat, qui est un avocat, qui est quelqu'un de haut niveau, une pointure, qui va venir aussi également au niveau des invités. On va continuer par des petites chroniques littéraires. Au niveau des chroniques littéraires, je voulais vous parler d'un ouvrage que j'ai beaucoup aimé, qui est celui de Monsieur Sébastien Dupont, un « Que sais-je sur les pères et la paternité ». Voilà, c'est une chronique YouTube que je vous diffuse aujourd'hui pour vous.
Ce que les émissions apprendront à la rentrée, c'est « Sébastien Dupont, les pères et la paternité ». Aux éditions Que sais-je, Sébastien Dupont, vous le connaissez, on a fait plusieurs émissions avec lui. Il est docteur en psychologie, thérapeute familial, responsable du pôle universitaire de thérapie familiale de l'Université de Strasbourg. Il a écrit plusieurs ouvrages et c'est un livre extraordinaire sur un sujet méconnu. Et il nous explique que Être père entraîne des transformations biologiques et psychologiques et psychiatriques. Il nous explique la différence du comportement paternel, de la parentalité paternelle au fur et à mesure des époques. Et il nous parle aussi de parentalité. Et il nous parle effectivement de comment on pourrait améliorer la place du père dans la société actuelle et les institutions. Je le recommande.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Voilà, c'était donc un préliminaire à une interview avec Maître Dangléan, que vous avez aussi pu entendre sur cette antenne il y a quelques semaines. Autre chronique littéraire, j'ai découvert avec grand plaisir, il était une fois la famille d'Emmanuel Todd. C'est intéressant, c'est vraiment bien, mais écoutez, je vous la diffuse ce soir pour, voilà, Ariane Milleran n'est pas là, mais nous avons plein de choses pour remplacer la chronique de « Il était une fois la famille d'Emmanuel Todd ». Petite vidéo du soir, espoir, vidéo littérature ce soir. Je voulais vous parler d'un ouvrage que je viens de lire qui m'a beaucoup plu. Bon, il est critiquable aussi, mais il est quand même vachement bien. C'était une fois la famille d'Emmanuel Todd. Alors, c'est une bande dessinée. Alors, on a vu mieux, hein, comme design. Même s'il paraît que le mec qui a dessiné, là, il s'appelle Terror Graphique, là, il paraît qu'il est bon et tout. Ouais, il y a des trucs caricaturaux et autres. Mais il y a aussi des petits bijoux. Et je vais vous en parler par rapport à ça. Pour ceux qui savent pas, Emmanuel Todd, en fait, c'est un sociologue, c'est un des plus grands sociologues des systèmes familiaux. C'est même un des experts mondiaux des systèmes familiaux. Et il vient nous expliquer ce que c'est qu'une famille nucléaire, qu'une famille communautaire, qu'une famille souche. En quoi ça consiste ? Pourquoi est-ce que le type de... Alors, en cas, la famille nucléaire, ce sont quand même des pages qui expliquent bien, quoi. Qu'est-ce qu'un système familial nucléaire ? Voilà, c'est-à-dire que... Ben ici, il va expliquer, il y a un ménage nucléaire, c'est un homme, une femme qui font des enfants. Lorsqu'ils se séparent,
enfin, lorsque les enfants s'en vont,
ils vont se séparer, refaire des enfants, des familles, comme on vit nous beaucoup en Occident. Hein. Égalitaire comme c'est en France, l'héritage est à égalité entre garçons et filles. Et la famille nucléaire qui peut être absolue, il n'y a pas de règle d'héritage. Les parents répartissent les biens quand et comme ils le veulent. Ça, c'est en Angleterre. Il y a des familles de modèles aussi où l'aîné a une importance par rapport à d'autres. Donc il parle de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la Chine, de la Russie. Il explique que ces modèles traditionnels familiaux entraînent des structures et des types de sociétés. Donc il explique par exemple l'arrivée du communisme par rapport au type de famille russe. Il y avait l'air qui était un peu plus bordélique que le nôtre, visiblement, hein, où tu te maries très jeune, ce qui fait que eh ben, le papa, il a parfois des visées sur la jolie petite blonde qui est avec toi. Là,
dans et la donc, même maison, les enfants partent pas, ils restent dans la même maison.
Que ce qui peut arriver après, et groupe qui protège beaucoup plus, le tsar, le communisme. Ben, c'est une théorie qui est intéressante. Il parle aussi des modèles qu'il y a en Allemagne, il dit la façon de faire, on y retrouve les raisons de la rigueur allemande, l'Angleterre, la Chine, le Japon, pas mal d'endroits. Et c'est vraiment intéressant cette vision de dire le système familial influence la façon dont la société se comporte, ou plutôt la société est influencée par la manière dont le modèle familial s'effectue, est vraiment passionnante. Ça, j'ai beaucoup aimé. C'est une façon de rentrer dans la sociologie d'Emmanuel Todd que j'aime beaucoup. Tiens, on va rejoindre Marc Mangin sur ça. Lui, il dit que la crise occidentale, la crise de la famille est aussi liée au brassement de population. Qui dit brassement de population dit brassement de type de modèle de famille. Et donc, il n'y a plus de modèle commun. En fait, puisque toutes les cultures se mélangent, tous les types de familles se mélangent, et quel type de famille privilégie-t-on au détriment de laquelle, de quelles habitudes, et quelle société cela entraîne-t-il? C'est intéressant. Je vais vous en parler. C'est une voilà, c'est Emmanuel Todd. Il était une fois la famille. C'est un ouvrage passionnant. Bon, il coûte 23 euros, mais il pèse lourd. On peut s'en servir aussi pour résoudre des problèmes. Voilà. Quand vous avez le chat qui miaule trop fort ou ce genre de choses.
C'est un bel objet aussi, voilà, qui vous aidera à rentrer dans la sociologie de la famille et dans le monde de Monsieur Emmanuel.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Bien, bah écoutez, jingle.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Bon, bah on a plus ou moins sauvé les dégâts hein, dans cette imprévue dernière minute d'invité absent. Et bon, on va terminer avec la chanson de la semaine. C'est la chanson de la semaine sur RLP.
Voici maintenant la chanson de la semaine.
Famille, justice, enfance.
J'avais pas prévu d'un jour adopter mon enfant, j'ai dû surtout m'adapter. Y'a pas que les gènes qui font les familles, des humains qui s'aiment suffisent. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, prends ma main de beau papa. Je t'attendais pas, je te laisserai pas. Même sans le même sang, on s'aimera. Non, je ne volerai jamais la place du premier qui t'a dit je t'aime. Sur ton visage, on voit son visage et c'est ainsi que tu es belle. De vous à moi, c'est moi j'avoue qui me suis invité dans sa villa, dans la vie où elle n'a rien demandé. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, prends ma main. Adopté, en vérité nue, c'est toi qui l'as fait. Y a pas que les gènes qui font les familles, du moment qu'on s'aime. Et si la verse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si la verse nous touche, toi et moi, prends ma main.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.